Bonjour, je vous accueille pour cette deuxième émission, mais tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont écouté la première. Celle-ci sera très riche dans les domaines du sport et de la culture. Nous commençons par les sections sportives du collège. Bienvenue Julia, présente-nous tes invités.
Bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 11 ans, et aujourd'hui je vais vous présenter les sections vélo et moto. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans la section vélo ?
C'est que, en fait, dans la section vélo, on peut tout faire, et on est tous amis, du coup on s'entend très bien, et c'est ça qui est génial.
Et moi, dans le club moto, tout ça, on s'entend très bien, il y a des super profs, on fait de tout, et c'est très intéressant.
Pourquoi vous avez voulu faire ces sections ?
Parce que, à la base, moi, je devais faire deux sports, mais le problème, c'est qu'il y avait pas, il y avait toujours les mêmes horaires. Alors du coup, j'ai décidé justement d'aller dans ce collège pour ça et pouvoir faire du vélo et du foot en même temps.
Ben moi, c'est parce que la moto, ça m'intéresse et qu'il y avait une option qui m'intéressait beaucoup, c'était l'enduro. Et donc, j'ai voulu y aller pour essayer et puis ça me plaît énormément.
Où faites-vous vos sections ?
Moi, on se balade un peu partout. On va à plein d'endroits différents. Des fois même, on va à des terrains de moto. On monte à la Goutarande et on va partout.
Ben nous, on a trois terrains et on a un petit terrain à côté du collège. On a le BA, un terrain spécialisé en enduro. Après, on a les abeilles et après, on a la Goutarande aussi.
Vous faites quoi comme activité dans votre section ?
On fait de l'XC, de l'enduro, de la randonnée aussi. En fait, on fait vraiment un peu de tout.
Ben nous, on fait de la prairie, de l'enduro et on fait beaucoup de... Aussi, on fait des randonnées, ce qui est prévu.
Est-ce que ça vous amuse ou ça vous énerve ?
Ça m'amuse beaucoup. C'est très marrant.
Moi, ça m'amuse énormément.
C'est quel jour les sections et à quelle heure ?
Moi, c'est le lundi de 14h à 17h.
Et moi, c'est le jeudi après-midi de 14h jusqu'à 17h.
Est-ce que c'est compliqué parfois ?
Oui, parce qu'en vélo, on doit beaucoup pédaler, surtout dans les montées, c'est très compliqué pour les gens.
Nous, c'est mentalement que c'est compliqué physiquement parce qu'il y a des choses où mentalement, on ne peut pas trop réussir. Et physiquement, c'est des courbatures ou autre, sinon...
Est-ce que vous faites des compétitions ?
Non, moi, j'en fais pas encore, mais j'aimerais bien en faire.
Pour moi, ce sera l'année prochaine, normalement. Et là, je fais cette année pour finir ma, entre guillemets, formation, pour passer mon diplôme pour faire les courses.
Est-ce que vous allez faire un goûter à la fin de l'année ?
À chaque fois... À la rentrée ou même les derniers jours de vacances, à chaque fois, il y a tout le monde qui ramène un peu de tout et du coup,
Nous, c'est un peu pareil. Nous, chaque fin de jeudi avant les vacances, ce qu'on fait, on ramène un goûter, des galettes et on mange. Voilà, on fait un petit goûter, sympa.
Pour la section vélo, vous amenez vos vélos ou on vous les prête ?
Nous, on a des vélos, en fait, en haut du collège, mais sinon, c'est nous qui les... C'est nous qui prenons nos vélos.
Nous, c'est le coach qui passe les motos, qui les fait louer. Et nous, sinon, on amène nos motos.
D'accord. Je vous remercie de vos réponses.
Merci, au revoir.
En continuant avec les sections, nous accueillons maintenant Célia qui va nous interviewer et Loan pour la section équitation.
Bonjour, je m'appelle Célia et aujourd'hui, je vais vous présenter la section sportive. Et on accueille Loan qui fait la section équitation.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette section ?
C'est toujours chaleureux et on en apprend tous les jours.
Pourquoi avez-vous voulu faire cette section ?
Parce que avant je faisais déjà de l'équitation et j'avais beaucoup plus envie d'apprendre dans un nouveau club.
Pratiquais-tu ce sport avant ?
Oui.
Qu'est-ce que vous apprenez dans cette section ?
Dans cette section, on apprend à être bien avec les chevaux, à savoir sauter de plus en plus haut ou connaître des nouveaux chevaux.
Il faut avoir quel galop pour intégrer cette section ?
Il faut avoir minimum le galop 2, sachant que les galops, c'est des sortes de niveaux après une année de travail.
C'est à partir de quelle classe qu'on peut faire cette section ?
Ici, c'est en 6e.
Où est la section ?
Au domaine équestre de la Goutarande, vers Cuxac-Cabardès.
Est-ce que c'est difficile, votre section ?
Ça dépend, mais plus on apprend, plus on change de niveau, du coup... Ça peut être dur des fois, mais ça peut être facile aussi.
Vous avez des tenues ?
Oui, il y a une tenue obligatoire dans tous les centres équestres. Faut déjà avoir la bombe. C'est un casque qui est fait exprès pour l'équitation. Un pantalon spécial et des gants, mais ça, c'est pas obligatoire.
Vous le faites à combien ?
Je crois qu'on est 8 ou 9, parce que les 6e sont aussi avec les 5e.
C'est quel jour votre section ?
La section, ça se passe le lundi après-midi et le jeudi soir.
De quelle heure à quelle heure?
Le lundi, c'est de 14h à 16h15 et le jeudi, de 16h à 18h.
Vous faites des goûters?
Non.
Vous faites quoi comme activité dans les séances d'équitation?
Ça dépend. Des fois, on saute des obstacles ou des fois, on fait du dressage, c'est-à-dire gérer son cheval.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente bonne journée. Au revoir.
Merci à Elouan et Célia. Poursuivant avec le sport, nous allons écouter Raphaël qui va nous parler du kickboxing.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le kickboxing.
C'est quoi le kickboxing?
Le kickboxing est un sport de combat qui consiste à battre son ennemi que avec les genoux, les poings et les pieds.
C'est qui le champion de kickboxing?
C'est Alexis Nicolas.
C'est qui la personne qui a créé le kickboxing?
La personne qui a créé le kickboxing s'appelle Osama Noguchi au Japon dans les années 60.
Mais est-ce que la boxe thaï, c'est pareil que le kickboxing?
Non, ce n'est pas pareil, car dans la boxe thaï, il y a plus de techniques, c'est-à-dire on peut donner des coups de poing, des coups de genoux, des coups de pied, des coups de coude et des clinches.
C'est quoi les clinches?
Les clinches, c'est une position d'attaque, c'est-à-dire il faut mettre son bras droit sur le côté gauche de la tête, son bras gauche sur le côté droit de la tête et mettre un coup de genou dans le foie.
Mais c'est quoi l'avantage du kickboxing?
L'avantage du kickboxing, c'est que ça renforce tes muscles, ça augmente ton agilité et ton cardio.
Merci pour ta présentation de ce sport et je te dis à la prochaine fois.
Merci. Et vous, quel est votre sport préféré?
Ta rubrique m'a donné envie d'en refaire, Raphaël. Et pour continuer dans le sport,
nous allons écouter Elouan, Sohan et Tristan qui vont nous interviewer. Romain Fantasino, athlète paralympique.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Avec grand plaisir. Donc moi je suis Romain Fantasino, j'ai 26 ans, je suis déficient visuel depuis ma naissance et je suis aujourd'hui accompagné de ma chaîne guide Ocha et de ma compagne Andrea.
Merci beaucoup. Quel sport pratiquez-vous?
Alors, actuellement, je pratique pas mal de sports, mais de façon récurrente, je pratique le golf. Et pendant des années, mon sport de prédilection, ça a été le cyclisme en tandem.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre sport?
Alors, je vais vous parler du tandem majoritairement. Alors, le tandem, c'est un vélo qui se pratique à deux, donc on est deux sur un vélo. La principale difficulté, c'est déjà de trouver ce type de vélo-là, qui sont quand même des vélos peu ordinaires, et de trouver le bon coéquipier ou la bonne coéquipière pour en faire avec soi. Une fois qu'on a réuni ces deux ingrédients-là, il faut beaucoup d'entraînement, de l'investissement et un peu de courage pour aller chercher de plus en plus loin et de plus en plus fort. Mais ça, c'est valable dans tous les sports.
Nous voyons que vous avez un chien guide. Depuis quand l'avez-vous et est-il formé?
Tout à fait. Donc ma chienne guide Ocha, elle a été dans une école de chienne guide à Toulouse de ses 3 mois à ses 2 ans à peu près. Et je l'ai eu en 2020, donc ça fait 5 ans qu'elle me suit et que je la suis au quotidien et qu'elle m'aide énormément.
Dans les sports que vous faites, faites-vous des compétitions?
Oui, alors concernant le tandem, j'en ai fait beaucoup. Ça a été très compliqué pour que j'arrive à en faire parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut réunir beaucoup d'ingrédients pour arriver jusqu'à participer à une compétition. Mais des compétitions en tandem, j'en ai fait pas mal de l'échelon local comme n'importe quel sportif. J'ai commencé petit, puis je suis allé affronter les meilleurs de ma discipline donc en tandem au niveau national. Donc j'ai fait les championnats de France sur piste et sur route et des Coupes de France. J'ai d'ailleurs gagné la Coupe de France qui se gagne sur plusieurs manches. Et après avoir participé du coup à bon nombre de compétitions nationales et régionales, etc., etc., on est allé s'essayer à aller affronter l'élite mondiale. Donc on a fait deux manches de Coupe du Monde où là, je vous avoue que c'était quand même un très très haut niveau. On était face comme je vous ai dit, à l'élite mondiale. Donc on a arrêté là concernant le tandem. Et pour le golf, je fais pas encore de compétition. J'en ferai peut-être un jour, mais je débute tout juste dans cette nouvelle pratique pour moi. Donc pour l'instant, pas de compète en golf.
Comment faites-vous pour pratiquer le golf avec votre handicap?
C'est une bonne question. Question que je me suis moi-même posée quand on m'a proposé d'aller essayer le golf, car pour moi, en tant que déficient visuel, c'était une pratique qui n'était pas du tout accessible à mon handicap, donc pour moi, ce n'était pas faisable. Et pourtant, voilà, j'en suis la preuve, c'est tout à fait faisable. Alors, comme je vous ai dit, je débute, je suis loin d'être un super golfeur, mais quoi qu'il en soit, je suis la preuve vivante que le golf pour déficient visuel, c'est possible, et je pratique exactement de la même façon que n'importe quel golfeur, que si vous veniez faire du golf, vous feriez exactement pareil que moi. On prend un club, on pose sa balle, on tape et on essaye de faire en sorte qu'elle parte à l'endroit où on veut. Et ça, qu'on y voit ou qu'on n'y voit pas, c'est toujours aussi dur. Moi, la seule adaptation qu'il y a, c'est que, pour ma part, j'ai une personne qui va me guider à l'endroit où atterrit ma balle et qui va m'orienter pour que je tape dans la bonne direction.
Ben, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée.
Eh ben, merci à vous et peut-être à bientôt.
Merci Romain d'avoir répondu à cette interview. Et pour rester sur le thème de handicap visuel, je passe la parole à Tristan pour nous parler de l'illustratrice Pénélope.
Bonjour, je m'appelle Tristan et je vais vous présenter la rencontre entre tous les élèves de 5e avec l'illustratrice Pénélope. Vendredi 15 novembre, tous les élèves de 5e ont rencontré Pénélope, une auteure illustratrice qui est en résidence à Montaulieu, village du Livre. Elle est venue parler de son métier et lance le projet Tous Solidaires 2025, l'époque du livre auquel l'ensemble des 5e vont participer. Cette auteure a particulièrement expliqué son travail sur la langue des signes et la langue tactile. Ainsi, elle nous a montré les ouvrages réalisés pour les malentendants et malvoyants. Avez-vous aimé ?
Oui.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que quand Pénélope nous parlait et nous racontait son projet, elle avait une émotion super énergique et ça nous donnait vraiment envie d'écouter ce qu'elle nous disait et vraiment d'apprendre.
Moi, si j'ai aimé, c'est parce que on a appris plusieurs informations sur des livres.
Où avez-vous fait cette rencontre ?
On l'a fait dans la salle Samuel Paty.
Qu'avez-vous appris ?
Moi personnellement j'ai appris que en fait tout le monde pouvait lire, parce que c'est vrai que par exemple je pensais que les malvoyants ils pouvaient pas lire, et du coup j'ai appris qu'on pouvait faire des livres exprès.
Y a-t-il quelque chose qui nous a plus plu que les autres ?
Moi c'est son livre tactile, du coup pour les malvoyants, avec plein d'objets en 3D un peu sur son livre.
Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est les livres audio.
Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci de nous avoir invités.
Au revoir.
Camille, nous accueillons une invitée.
Elle s'appelle Magali.
Magali, qu'est-ce que vous faites ?
Je suis artisan cirier.
Et Magali, j'ai quelques questions pour vous. À quoi consiste le métier d'artisan cirier ?
Alors, le métier d'artisan cirier consiste essentiellement à la maîtrise de la cire, qu'elle soit liquide ou solide, sous différentes formes.
Combien de temps de formation faut-il ?
Il faut environ 6 mois de formation et beaucoup, beaucoup de travail sur le tas.
Comment s'appelle votre boutique et à quels produits faites-vous ?
Alors, ma boutique s'appelle Mon Rêve Parfumé. Je fais essentiellement ce qu'on appelle des bougies gourmandes, c'est-à-dire on travaille la cire sous forme de chantilly, mais également des dérivés tels que les fondants parfumés que les gens utilisent essentiellement dans des brûleurs pour parfumer leur intérieur.
Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Alors, j'étais auparavant photographe professionnel, mais le Covid m'a fait perdre ma clientèle et donc j'ai continué ma passion, c'est-à-dire créer des bougies.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?
Cela fait 3 ans maintenant que j'exerce le métier d'artisan cirier.
Est-ce que c'est un métier difficile ?
C'est un métier qui prend énormément de temps, comme tout chef d'entreprise. Beaucoup de travail avec les réseaux sociaux, les foires, les marchés et la clientèle.
Et enfin, quel est votre rêve par rapport à votre entreprise ?
D'en faire un empire.
Merci pour votre écoute et merci à vous d'être venu, Magali. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous continuons avec l'interview de Malo, qui interviewe Elodie, une pâtissière qui habite au Lotier à Brousset-Villaret. Malo, je te donne la parole.
Merci Luca.
Elodie a été ma maître de stage de 3e, et elle va nous raconter son histoire. Bonjour Elodie, comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci, et toi Malo ?
Ça va aussi. On commence l'interview ?
Avec plaisir.
Quel a été ton parcours scolaire et professionnel avant de devenir pâtissière ?
Alors, j'ai un parcours scolaire qui n'a absolument rien à voir avec la pâtisserie. Donc moi, je suis jusqu'à la 3e normale. Après, je suis partie sur un CAP comptabilité, suivi d'un bac commerçant. Et après, je suis partie à la fac parce que j'ai toujours été passionnée de littérature. Mais c'est un parcours qui ne me convenait pas. Donc j'ai tout plaqué et je suis partie vivre un an à Londres pendant 10 ans.
Tu peux nous décrire un peu ton entreprise ? Elle existe depuis quand ? Qui travaille avec toi ? Qui sont tes clients ?
Donc, j'ai ouvert le 7e péché en 2018 et je travaille... Alors, au départ, je travaillais exclusivement seule et maintenant, je travaille avec mon mari. Et de temps en temps, je prends un extra qui est Céline. Et voilà, on est deux à faire tourner la boîte hein, et quand il y a beaucoup de travail, j'ai des extras, j'ai Céline. Mes clients au départ, c'était des mamans pour des anniversaires. Exclusivement. Et progressivement, je pars sur l'événementiel. Donc là, maintenant, ça s'est élargi. Donc je travaille pour des boîtes aussi, pour des entreprises et surtout mariage.
J'ai lu sur ton site, Le Septième Péché, que c'était grâce à ta grand-mère que tu avais commencé la pâtisserie. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors oui, c'est en partie ma grand-mère qui m'a élevée et ma grand-mère était une gourmande. Donc le mercredi après-midi ou les week-ends quand on n'était pas à l'école, je faisais de la pâtisserie avec elle et donc elle m'a appris très jeune le béaba de la pâtisserie, mais de la pâtisserie classique française. Donc elle m'a donné l'amour de la nourriture, des recettes et de la réalisation.
Et selon toi, quelles sont les principales qualités pour être pâtissière ?
La gourmandise, la passion, et après être très pointilleuse.
Mis à part faire des gâteaux, qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ce métier ?
Alors, ce que j'aime le plus, c'est le contact avec les gens. Ce que j'aime le moins, il y a certains ingrédients comme le chocolat, qui sont, personnellement, je trouve durs à maîtriser. Et ça, c'est le côté négatif, c'est quand je n'arrive pas à faire quelque chose, ça peut me contrarier.
Et quand tu fais des gâteaux, quels sont pour toi les moments les plus satisfaisants et les moments les plus stressants ?
Alors, quand je fais un gâteau, le plus stressant, c'est d'arriver à le construire comme je veux, parce que je suis assez perfectionniste, donc je m'impose des choses qui peuvent être stressantes, et le plus satisfaisant, évidemment, c'est quand j'y arrive et que je prends ma photo et je suis fière de moi.
Tu accueilles souvent des stagiaires ? Tu proposes des ateliers ?
Oui, je propose des ateliers pâtisserie pour adultes et enfants, en particulier pour enfants. Adultes, c'est surtout sur la demande. Et je prends des stagiaires parce que je trouve que c'est très intéressant de montrer ce que c'est que le travail et surtout d'essayer de faire passer une passion, ma passion pour la pâtisserie.
Ça ressemble à quoi, ta journée type ?
Alors, je suis une lève-tôt. Donc, en général, je me lève vers 5h, 5h30. Tout simplement parce que là, je sais que mon téléphone ne va pas sonner, que je suis seule dans mon labo avec moi-même, et ça, j'adore. Et je commence par faire un point sur la journée. En général, je le fais toujours la veille pour le lendemain, donc je me fais un planning avec du plus urgent au moins urgent. Et je travaille en général le matin, en particulier au laboratoire en fabrication. Et en règle générale, l'après-midi, ça va être l'ordinateur. Donc répondre aux mails, répondre aux SMS, passer mes coups de fil et les réseaux sociaux.
Ta particularité, c'est que tu n'as pas de magasin. Mais du coup, comment fais-tu pour vendre tes créations ?
La communication, Facebook, Instagram, TikTok, tout ce qui est communication via les réseaux sociaux.
Tu t'es fait une spécialité de réaliser des gâteaux sur mesure. Fais-nous rêver. Il ressemble à quoi, le gâteau le plus fou que tu aies eu à faire ?
Un T-Rex. Ça a été l'énorme défi, d'ailleurs, pour ton frère. Donc, ça a été un truc énorme. C'est le T-Rex en 3D qui nous a demandé de travailler sur une structure. Alors là, c'est tout le monde qui a mis la main à la pâte. Hein. Donc, j'ai fait travailler mon mari pour la structure à l'intérieur. J'ai fait travailler Sarah, qui à l'époque était notre cuisinière, hein, pour tout ce qui était texture de la peau. On l'a travaillé ensemble, les yeux en sucre, etc. Et après, j'ai fait intervenir sa cousine Audrey, qui est peintre, hein, et qui m'a appris à utiliser l'aérographe et la peinture sur gâteau.
On sent bien que la pâtisserie, c'est pour toi un métier passion. Mais est-ce que tu arrives à en vivre ?
Oui, j'en vis, mais au détriment de vacances, de jours de congés, c'est pas de tout repos. Pour arriver à en vivre, l'événementiel me fait beaucoup plus en vivre que les gâteaux individuels. Après, seul, comme je fais moi, pour en vivre, il faut un peu oublier les week-ends, les vacances, etc., etc.
Et philosophiquement, ça représente quoi pour toi la pâtisserie ?
L'évasion, la création surtout, l'apprentissage de nouvelles techniques, hein, et le développement de la confiance en soi.
Et bien voilà, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Elodie pour ce moment passé ensemble. Si vous n'avez pas peur du péché de gourmandise, courez au lotier pour lui demander le gâteau de vos rêves. Salut et à bientôt.
Merci Malo pour cette dernière interview. Notre émission touche à sa fin. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont participé. Et n'oubliez pas que la boîte aux dédicaces est disponible au CDI. Au revoir et à bientôt sur RL2.